Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. À présent, nous allons échanger sur les actions menées par l'UNPOL, la police des Nations Unies, en collaboration avec la PNC, la police nationale congolaise, dans la lutte contre les violences sexuelles. Nous avons dans ces studios Madame Christine Fourel, elle est sergent enquêteur au niveau de UNPOL. Madame Christelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Et nous avons également dans ce studio le major Marceline Ndaya, commandant adjoint de toutes les équipes provinciales d'enquête et de prévention de la violence à la police nationale congolaise. Major Marceline Ndaya, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations. Composez déjà le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien. L'état des lieux des violences sexuelles en RDC en 2025 est très alarmant, d'après nos sources, particulièrement dans les provinces de l'Est comme le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Plus de 130 000 cas de violences sexuelles ont été signalés en 2024, dont plus de 70% dans l'Est du pays. En février 2025, près de 900 viols ont été enregistrés en deux semaines, l'équivalent de 60 cas par jour. Les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre et surtout dans les zones en conflit, selon MSF, Médecins Sans Frontières. Alors, quelles sont les actions menées par l'UNPOL en collaboration avec la PNC, la Police Nationale Congolaise, dans la lutte contre les violences sexuelles? Sergent Christine Fourel, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Oui, bonjour, Fournel. Fournel.
Voilà. Christine Fournel. Bien, la première question que je vous adresse est de savoir qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle.
Oui, je vais donner la parole à ma collègue Marceline pour répondre à cela.
Pour l'instant. Oui. D'accord. Major Marceline, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole. Qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle? Il serait mieux d'abord de savoir c'est quoi une violence. Alors, si on peut définir la violence, nous dirons que la violence, c'est un acte où c'est tout comportement posé sur quelqu'un contre sa volonté. Alors, si on doit associer à cette notion de violence la terminologie sexuelle, nous dirons que c'est une forme de violence basée sur le genre. Et c'est un acte de violence ou une agression physique ou psychologique ayant pour finalité les rapports sexuels. Donc, les violences sexuelles sont englobées dans les violences basées sur le genre.
Sur le genre.
Ok.
Bien. Alors, quel état des lieux vous faites des violences sexuelles en RDC? On venait de présenter la situation selon laquelle la situation est très alarmante.
Oui. L'état des lieux des violences sexuelles en République démocratique du Congo, là, il faut voir les statistiques. Et il y a beaucoup de structures qui élaborent ces statistiques sur les violences sexuelles. Et là, il faut savoir que les violences existent, les violences sexuelles existent et se commettent partout. Et plus dans l'est de la République démocratique du Congo, avec les conflits armés qui se passent là-bas. Mmh. Alors, en parlant des structures qui élaborent les statistiques, nous dirons qu'il y a autant de structures, entre autres, il y a les Médecins sans frontières, il y a l'UNICEF, il y a les Nations unies, il y a l'UNFPA, etc., etc. Mmh. Et tout ça, nous dirons que les violences sexuelles sont plus connues au niveau de l'Est de notre République démocratique du Congo à cause
de la guerre. Avec des cas bien documentés.
Oui, oui, avec des cas bien documentés. Mmh. Et concernant notre ministère du genre, il n'a pas encore publié des statistiques constantes. Le ministère du genre se confie ou il s'appuie sur ces statistiques que les structures internationaux lui donnent. Ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas vraiment, comment dirais-je?
Ouais, c'est bon.
Ce n'est pas vraiment
ce qui devait se faire.
Ce qui devait se faire, puisque oui. En tant que ministère de la République démocratique du Congo, il fallait que nous soyons les premiers
à présenter
ces statistiques au lieu que nous puissions toujours se référer à ce que nous donnent les structures internationales.
D'accord. On retient qu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles et beaucoup plus dans la partie occupée, occupée par les rebelles du M23 et les autres. Alors, comment procédez-vous pour inciter, par exemple, les victimes à dénoncer les cas des viols dans les zones en conflit, notamment au nord et au sud Kivu, puis en Ituri?
Alors, pour la dénonciation des cas du côté de l'Est, là, je pense que Christine peut m'appuyer puisque c'est quelqu'un qui a été de ce côté-là. Il peut nous dire en réalité ce qui se passe.
Sergent Christine Fournel.
Oui.
Vous avez la parole.
Oui. Nous sommes bien conscients que la situation est très difficile présentement pour les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre et en lien avec les conflits. Cependant, dans certains cas, nous avons créé des ponts avec les organismes qui sont sur place. Pour ne pas tous les nommer, Médecins sans frontières, Médecins sans frontières, les droits de l'homme et aussi avec la PNC là, qui se retrouve sur place. Comme ça, ça permet d'assurer une prise en charge au niveau des victimes.
Bien. Ça permet d'avoir une prise en charge, d'assurer une prise en charge au niveau des victimes. Alors, une autre question est de savoir comment l'UNPOL et la PNC travaillent dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles dans les zones en conflit. Je pense que vous pouvez répondre toutes les deux à ces questions.
En ce qui concerne l'unité SPT, VSBG de la MONUSCO, on travaille de concert.
C'est quoi SPT?
Special Police Team, ça c'est un acronyme en anglais, c'est l'équipe de police spécialisée.
Oui.
Qui est formée en fait du Canada et de la Tanzanie. Mm-hmm. L'équipe a été créée tout d'abord à Goma et à Bukavu, si je me trompe pas, depuis 2021. Mm-hmm. Oui, c'est ça, comme je disais, on travaille de concert avec la PNC en ce qui concerne le renforcement des capacités pour les enquêtes en lien avec les violences sexuelles basées sur le genre ou les violences sexuelles en lien avec les conflits. Puis ça passe par de la formation du mentorat qui est fait régulièrement. Il y a aussi beaucoup de sensibilisation, de la conscientisation au niveau de la population et qui se fait là dans différents forums et aussi dans certains camps de déplacés.
Parce qu'il y a des femmes qui ne dénoncent pas. Pour elles, c'était un sujet de honte et puis elles veulent pas du tout en parler. Préfèrent garder cela secret. Comment vous arrivez à les convaincre pour s'ouvrir et dénoncer?
Ça, je vais laisser ma collègue.
Major Ndaya.
Tout part de la sensibilisation. Lorsqu'on mène une bonne sensibilisation, vous verrez que la population est ouverte et peut dénoncer tout ce qu'ils sont en train de vivre comme violence sexuelle. Et aussi, il faut savoir comment appréhender la chose. Sinon, lorsque la procédure est biaisée, cela va encore la renfermer et ça sera difficile qu'il puisse encore s'approcher auprès de vous.
Oui. Bien, on va accueillir les auditeurs qui sont en ligne. Georges Kilangalanga nous appelle de Bounia. Patrick Saïdi est à Kisangani et Chrysostome Lebakwa est à Arou. Bonjour, Georges Kilangalanga. Allô, bonjour Georges. Allô? Bien, Georges n'est pas là. Patrick Saïdi de Kisangani, bonjour.
Hier, je dis c'est Blaise Saïdi à tout bout, rectifié.
C'est plutôt Blaise Saïdi. Oui. D'accord, je rectifie tout de suite.
Blaise Saïdi.
Allez-y.
Merci bien. Ok, merci, cher Jody. Bonjour aux invités.
Bonjour.
Bonjour aux invités. Voilà, merci. Cher Jody, l'acte consacré entre Liel Paul et la PNC dans la lutte contre les violences sexuelles constitue un pilier essentiel dans la promotion des droits humains et la lutte contre l'impunité en RDC. Chers auditeurs, la collaboration entre la PNC et l'INVOL est donc un modèle d'appui international pour améliorer la gouvernance sécuritaire et lutte contre les violences basées sur les genres en contexte post-conflit. Je dois aller tout citer aux invités. Chacune d'elle aura des questions. Je commence. La première question, cher Jody, quelles sont les limites actuelles du partenariat entre l'URSOL et la PNC dans la lutte contre les violences sexuelles? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la place...
Pardon, pouvez-vous reprendre la première question, Blaise?
Ok, la première question, telle que je disais, quelles sont les limites...
D'accord.
Actuel du partenariat entre l'UNPOL et la PNC dans la lutte contre les violences sexuelles. La deuxième question, quelle est la place des femmes policières dans la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles? La troisième question, comment évaluer l'impact des campagnes de sensibilisation dans les communautés locales? Et pour citer, quels sont les résultats concrets observés après la formation organisée par l'INPOL au sein de la police nationale congolaise? Voici les quatre questions, chérie. Je vous dis merci bien.
Bien, merci. Chrysostome Lebakwa, depuis Arou en Ituri. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre... Quelle est votre question?
Oui. Nous aimerions juste savoir si les actions conjointes vont aussi atteindre Arou, parce que les cas-là, ça se constate aussi ici. Et c'est marqué souvent par l'impunité. Les victimes n'ont pas accès à la justice, donc il est tellement urgent d'impliquer davantage les communautés locales pour briser les murs du silence. Nous aimerions demander à l'invité, est-ce que les actions de PNC et de Arou sont visibles aussi? Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être renforcer la police parce que c'est vrai qu'il n'existe pas ici? C'est pas du tout de l'épaule que madame parle là.
Bien, merci Chrysostome les Bakois. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, Monsieur Joudi. Merci du verbe que vous m'avez accordé. J'ai suivi l'émission, j'ai mes invités pour le travail qu'ils abattent. Et ce qui m'a poussé à intervenir, c'est par rapport à la clarification terminologique. Alors, je ne sais pas, les invités parlent de toutes les violences sexuelles ou du viol seulement. Donc, il faut préciser cela. Parce que le 20 juillet 2006, une loi a été votée par le Parlement congolais portant sur les violences sexuelles. C'est au pluriel. Il y en a plusieurs. D'après cette loi, on entend par violence sexuelle tout acte, tout geste, tout fait, tout comportement qui porte atteinte non seulement à la dignité sexuelle, mais aussi à la moralité sexuelle. Et on liste l'arène des violences sexuelles, c'est le viol, qui suppose la conjonction, la pénétration sexuelle sans le consentement de la victime. Et la loi a évolué. Aujourd'hui, un homme peut aussi être victime, ce qui n'était pas le cas avant 2006. La loi est encore allée très loin, en dehors du vagin. Tout autre orifice peut faire l'objet. Le fait pour un monsieur de prendre un stylo et de mettre dans l'oreille, dans l'orifice d'une fille sans son consentement, peut être aujourd'hui considéré comme viol. Ça fait l'objet des débats, mais la loi, même si elle est mauvaise, il faut la respecter. À part les viols, il y a aussi l'attentat, la pudeur, qui est une violence sexuelle. Le fait de toucher une personne dans les parties intimes sans son autorisation. On en voit dans le bureau, partout, une dame qui passe, son patron la tapote par derrière. C'est un attentat à la pudeur. Ou quelqu'un s'habille ou se lave, vous lorgnez, ce qu'on appelle le voyeurisme. C'est une infraction sexuelle aussi. On a également le harcèlement sexuel. Le fait pour une personne placée haut d'exiger des faveurs sexuelles à son subordonné ou sa subordonnée. Lorsque ça devient persistant, insistant, c'est une violence sexuelle. Mmh. Il y a aussi l'outrage public aux bonnes mœurs et à la moralité sexuelle. Une fille qui se promène à moitié nue, c'est une infraction. Ou un chanteur qui chante et qui profère des insanités. Voilà pourquoi en 79, on a arrêté Kofi Nyokalongo. Donc, quand on parle de violence sexuelle, madame, mesdames les invités, il faudra nous préciser. Vous vous limitez au seul cas du viol ou vous élargissez votre combat. Même le mariage forcé est une violence sexuelle. Un père qui oblige sa fille à épouser un homme qu'il n'aime pas. Non seulement c'est le mariage forcé, c'est aussi une violence sexuelle. Le proxénétisme, quelqu'un qui prend une maison, qui engage des filles, qui se prostitue, c'est aussi une violence sexuelle. L'excitation des mineurs à la débauche, devant des petits-enfants qui n'ont pas encore 18 ans, vous mettez des images obscènes. C'est aussi une violence sexuelle. Voilà pourquoi je voudrais, prochainement, lorsque vous intervenez, vous précisiez, est-ce que vous parlez seulement du viol ou de toutes les violences sexuelles? Pour chuter, moi je pense, la première chose qu'il faut faire, c'est dénoncer. Beaucoup de femmes sont victimes de viols, même des hommes aujourd'hui, au niveau professionnel, au niveau de la société. Mais ils ont peur de dénoncer parce qu'ils ont honte. De deux, il faut la sanction. La seule arme qui lutte contre l'impunité, c'est la sanction. Et cette loi que j'ai citée a innové. Le viol aujourd'hui est imprescriptible. D'accord. On peut vous poursuivre toute la vie.
Merci beaucoup, Maître Omar.
Voilà ma petite contribution. Je vous remercie.
Merci, Maître Omar. Sergent Fournel, qu'est-ce que vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs? Il y a Blaise Saïdi d'Exangani qui veut connaître quelles sont les limites du partenariat qu'il y a entre l'UNPOL et la police nationale congolaise.
Oui. Tout d'abord, en ce qui a trait aux limites, je vais commencer par parler des ressources, que ce soit financières, matérielles ou humaines. C'est une difficulté qu'on peut rencontrer au travers des différentes activités qu'on planifie avec la police nationale du Congo. Il y a aussi une difficulté en ce qui a trait à rejoindre la population qui se trouve dans les endroits éloignés compte tenu pour des raisons sécuritaires, d'accessibilité. C'est une difficulté. On réussit à y aller, mais c'est une difficulté qu'on peut rencontrer au quotidien. Aussi, même pour ce qui est de Kinshasa, pour ce qui est des endroits qui sont en périphérie, la circulation, c'est aussi une difficulté qu'on peut rencontrer. Aussi, quelquefois, la langue peut être une difficulté. Ça peut causer une certaine barrière. Quand je parle de pour l'équipe SPT, là, bien évidemment, mais on a quand même des individus qui parlent pour ici Kinshasa, le Lingala et dans l'Est, le Swahili, pour. Je sais qu'il y a plusieurs dialectes, mais on va nommer ceux-là.
D'accord.
Et on fait toujours des activités conjointement avec la PNC, que eux parlent le français, mais bien évidemment la langue locale.
Locale, d'accord. Majanda, il y a une autre question, de savoir quelle est la place de la femme policière dans la stratégie des luttes contre les violences sexuelles.
La femme dans la lutte contre les violences sexuelles a sa place. Puisque, statistiquement parlant, nous voyons que c'est la femme ou la jeune fille qui est plus violentée. Et lorsque la victime est de sexe féminin, connaissant que son bourreau est masculin, il est difficile que cette dernière puisse se donner ou parler de son cas à quelqu'un qui est de sexe masculin parce qu'il a cette image-là de son bourreau. Mmh. D'où il est impérieux que dans tout ce qui est lutte contre les violences sexuelles, la femme soit là parce qu'il saura comment parler avec sa consœur en ce qui concerne cette intimité-là.
Mmh.
Donc la femme,
la victime sera mise en confiance et pourra facilement
aborder la
question, plutôt que si c'était avec un homme. Chrysostome, depuis Arou, il dit que là-bas, à Arou, en Ituri, il y a aussi beaucoup de cas de violences sexuelles et qui sont impunies. Les victimes n'ont pas accès à la justice. Il dit qu'il y a aussi des besoins là-bas de renforcer les acteurs locaux, etc., et amener les femmes à briser le silence.
Oui, c'est normal, mais cette question n'est pas de notre apanage. Là, c'est une question qui doit être discutée au niveau de la hiérarchie, de la police, du gouvernement, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme action afin d'atteindre cette population de Harou qui est en train de crier haut et fort à cause de l'impunité sur les violences sexuelles.
Bien, la question de Maître Omar de Kinshasa, Sergent Fournel, il dit oui, c'est vrai que aujourd'hui on parle, il y a plusieurs formes de violences sexuelles. Bien qu'on table plus sur le viol, mais il y a plusieurs formes. Est-ce que dans cette campagne vous visez seulement le viol ou bien toutes les formes des violences sexuelles?
Non, monsieur
Omar
a bien raison. Il a bien fait de parler de les différentes violences sexuelles.
Mm-hmm.
Et durant les formations, durant nos périodes de sensibilisation, on parle pas seulement que du viol. On parle, il y a plusieurs infractions, mais votre invité, votre auditeur les a bien nommées.
Mm-hmm.
Et on prend bien soin de lorsqu'on parle de violences sexuelles, on parle vraiment de toute forme de violences sexuelles qu'il faut dénoncer. Qui sont inacceptables et qui sont illégales.
Majanda, il y a une autre question, est de savoir où est-ce qu'on peut dénoncer un cas de violence sexuelle?
Où dénoncer un cas de violence sexuelle? La population peut aller se plaindre dans tout ce qui est bureau qui s'occupe de la police judiciaire. C'est-à-dire de la chaîne judiciaire, voulais-je dire, la population peut aller dénoncer à la police. Elle peut aller dénoncer au niveau du parquet. Elle peut aller dénoncer au niveau du tribunal. Mais concernant la police, puisque je suis de la structure,
Faut aller dans les sous-siates.
On peut aller dans les sous-siates, oui, mais il y a une police spécialisée qui a été créée et qu'on appelle police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, dont je fais partie. Donc, dans toutes les provinces, il y a cette structure-là. Alors, on peut toujours demander à la population de pousser ou d'aller juste dans cette, dans ce bureau de police de protection de l'enfant, et je pense qu'il sera bien pris en charge et bien accompagné afin qu'il puisse trouver gain de cause.
Et cette police de protection est partout, hein, dans tous les sous-siats, vous avez les représentations là-bas, non?
Il y a des représentations dans les provinces. Mais ici, à Kinshasa, nous sommes dans 5 points focaux.
Lesquels?
Là, nous pouvons citer l'état-major Kinshasa qui est sur l'avenue croisement Willeri-Itaga. Nous avons un point focal sur poids lourd pour le mont Amba, juste en diagonale avec Pakajuma. Nous avons un point focal pour Mongafula au niveau de Masangambila Wenze. Nous avons un point focal à Maluku. Nous avons un point focal à Nsele, juste dans l'enceinte du commissariat urbain. Nous avons un point focal à Tchangu du côté Mont-Kali.
D'accord. Oui. Et dans toutes les 26 provinces, vous avez des représentations.
Si.
D'accord. Il suffit de s'informer où se trouve la police, l'unité qui s'occupe de la protection de l'enfant.
Et prévention des violences sexuelles.
Et prévention des violences. Oui. D'accord. On va accueillir d'autres auditeurs. Joseph est en ligne depuis l'ICASI, Justin Koulou, Kinshasa, Emina Mwanda, Bukavu, Thomas, Kisangani. Joseph, depuis l'ICASI, bonjour.
Bonjour à tous les deux invités.
Quelle est votre question, Joseph?
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si c'est pour l'instant, c'est au jard. C'est tout à fait compliqué, monsieur Joly. Si, à 90%, ces choses passent souvent la nuit, on casse l'abri. On entre, on vole, et très cagoulé, après avoir dit quelque chose, il paraît à la nature. Si ils sont disparaître, comment découvrir le fait qu'on appelle le bourreau là? Après avoir dit très cagoulé, pendant la nuit, à la disparition de ce camarade-là, comment on peut le découvrir? Le deux. Il y a les autres qui vivent tout le pays trop réclamé. Par exemple, l'endroit 23 existe. Là où, à Bukombo, Bouchouchou, l'endroit contrôlé par les rebelles. Après trois mois, cette rebelle qui est filié là. Comment arriver à prendre le plainte contre ceux qui a violé la maman là après 3-4 mois? Si elle dénonce comme ça,
allô? Désolé, on a perdu Joseph. On va accueillir Justin Koulou de Kinshasa. Bonjour Justin, quelle est votre question par rapport à la lutte contre les violences sexuelles?
Merci Monsieur Jody, et je dis merci à nos deux mamans qui sont au studio. Ma première question est de savoir, bien sûr que le Congo c'est un pays laïque, mais les mensonges aussi gangrènent notre pays. Et si... quels sont les mécanismes mis en place pour détecter que la dame ici, c'est les mensonges? Puisque quand il y a la dénonciation, il y a sous prétexte que je serai peut-être réparé, on va me donner quelque chose, on va me payer. Par manque de moyens, quelqu'un peine à les nuire. Quelqu'un dit qu'il m'a violé. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on peut s'entendre et peut-être à la fin, on peut se donner tel montant. Si la femme ne voit pas tel montant, et carrément, elle peut changer de version qu'elle m'a, il m'a violé. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place, ou soit les États, pour dénicher que ça, c'est les mensonges, ou soit ça, c'est la réalité? Deuxièmement, avec les violés,
c'est la femme qu'on a violée. Est-ce que si dans le quartier, quels sont les mécanismes d'accompagnement pour qu'elle ne soit pas vraiment asphyxiée, que non, et tout le monde, on la protège, comment que cette histoire ne soit pas vulgarisée pour que qu'elle garde toujours son honneur. Y a-t-il des mécanismes pour l'accompagner dans les psychoses aussi?
Merci Eminent Mwanda, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati,
quelle est votre question Eminent Mwanda?
Comment obtenir réparation des violences sexuelles subies pendant les atrocités des groupes armés, soit pendant les groupes armés? Sachant qu'il y a certains cas, il y a une femme qui peut être violée, mais c'est pendant la rébellion. Mais après cette rébellion là-dedans, on banalise tout, et la victime reste comme ça, il reste avec toute cette honte-là, sans pour autant obtenir réparation. Nous invitons nous à éclaircir ici quel mécanisme on peut faire pour que les victimes de violences sexuelles pendant les conflits armés puissent bénéficier de ça.
Bien, merci.
Deuxièmement,
oui. Deuxième question.
Deuxièmement, par comment aussi bannir la honte selon certaines victimes congolaises, messieurs, il y a parfois une femme que être victime de violences sexuelles, mais la honte de la dénoncer. Autant que si je l'ai dit, je risque de ne plus avoir la chance d'être marié, et ça peut être une malédiction pour ma famille et pour toute la communauté tout entière.
Merci Eminent. D'accord, merci beaucoup. Thomas, vous êtes à Kisangani, bonjour, et quelle est votre réaction rapidement? Votre question ou préoccupation?
Bonjour monsieur, je vous dis rebonjour ainsi que rebonjour à vos invités au studio. Avant de poser mes quelques préoccupations que j'avais, monsieur, je vous dis, je dois quand même féliciter l'initiative de Lien Paul, parce que avant que je sois ici à Kisangani, j'étais à Ituri, à Bunia précisément. En tout cas, Lien Paul a contribué énormément vis-à-vis des femmes, il y a une contribution énorme de la part de Lien Paul. Ça, c'est quelque chose à féliciter, notamment dans l'aspect lié à la formation, mais également à la sensibilisation. On a senti, en tout cas, Lien Paul a énormément contribué pour la formation des agents de la PNC. Ça, c'est quelque chose, mais également pour le renforcement des capacités. C'est quelque chose qu'on doit, en tout cas, encourager de la part de Lien Paul. Ça, c'est quand j'étais à Ituri, là. Mais également, Lien Paul a contribué a mis en place des programmes de prévention. La collaboration entre Lien Paul a développé en tout cas des mesures là, de sensibilisation, de former la population. C'est quelque chose, si les violences sexuelles bien sûr, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais, mais également, Lien Paul a contribué également au soutien aux victimes, parce que Lien Paul a des structures là, Lien Paul avec le paix qu'il a, et avec surtout la collaboration entre la PNC, a permis en tout cas d'établir également les mesures là d'assistance aux victimes de violences. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Mais il y a également des contextes dont quand bien même qu'il y a ces moyens-là, mais il y a également des contextes, notamment les problèmes de résistance culturelle et de stigmatisation, monsieur Tati, monsieur Jody. Bien qu'il y ait la collaboration, mais il y a quelque part là, la résistance là, culturelle des femmes, tout ça, vous voyez, ça pose un sérieux problème. C'est également la question, et c'est un obstacle, en tout cas, majeur à la lutte contre ces fléaux, la stigmatisation et la résistance. Je ne sais pas, par rapport à la question, je ne sais pas si les éviter, qu'est-ce que les dames vont nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que Lien Paul peut faire à cas de résistance culturelle et des cas de stigmatisation par rapport aux femmes ou par rapport à ces fléaux-là de violences sexuelles, monsieur? La deuxième question, c'est par rapport, les initiatives sont là, mais je ne sais pas quelles sont en tout cas les mesures, quels sont les mécanismes que Lien Paul fait pour que en tout cas, toutes ces évaluations là, toutes les mesures là qui ont été prises puissent être bien être évaluées également. Parce que le problème c'est quelles sont en tout cas les mesures, les mécanismes de suivi et d'évaluation mis en place par Lien Paul pour assurer en tout cas l'efficacité entre la collaboration là menée d'une part avec Lien Paul, mais également la peine. Quels sont en tout cas les mécanismes?
Les mécanismes.
La dernière question que je pourrais citer, monsieur Jody.
Oui.
La dernière question que je pourrais citer, c'est par rapport aux perspectives d'avenir, monsieur Jody. L'INPOL est là, mais l'INPOL peut... La MONUSCO, en bref, peut nous quitter. Je ne sais pas quelles sont les perspectives d'avenir qui pourront familiariser cette collaboration puisse demeurer après le départ de l'INPOL. Quelles sont les stratégies que l'INPOL fait parce que l'INPOL va quitter ici la MONUSCO, on sait peut-être que ça ne peut pas rester éternellement ici au Congo. Quelles sont les stratégies que l'INPOL fait après son départ, peut-être au fur et à mesure des années? Et je vais citer par exemple, M. Jody, si vous le permettez, c'est par rapport à la réparation, M. Jody. Je sais pas, parce que l'INPOL est là, l'INPOL pas n'accorde pas les...
D'accord,
les
on a compris.
De sexuelle,
d'accord.
On attend des réparations.
Des réparations, bien entendu.
On attend des réparations.
Tout à fait. Merci. Merci. D'accord, merci beaucoup. On va donner...
aux victimes de violences sexuelles liées à la réparation.
Merci beaucoup.
Victimes, parce qu'on peut être condamné, mais on n'arrive pas à bénéficier des réparations. Je ne sais pas, l'INPOL, quelles sont la contribution de l'INPOL par rapport à ces problèmes-là.
D'accord. D'accord, Thomas. Et on sent que Thomas a beaucoup de choses à dire. Mais on n'a pas beaucoup de temps, Thomas. Voilà, je vais récapituler. Majanda, il y a beaucoup de questions. Il y a Joseph, par exemple, Delicacy, qui veut savoir une attaque peut arriver la nuit par des personnes, des gens cagoulés et qui vont violer les femmes, etc. Comment les identifier? Et les femmes qui sont, par exemple, violées dans les zones contrôlées par les rebelles du M23, AFC, comment dénoncer? Il a parlé aussi des certaines femmes qui ont honte de parler de ces choses. C'est une honte pour elles, pour la famille. Elle risque de perdre aussi son mariage, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ok, merci beaucoup pour la parole. Lorsque on nous forme en tant qu'officier de police judiciaire, il y a un cours qu'on appelle technique d'enquête criminelle. Et c'est à partir de cette thématique que l'OPJ est informé de la manière dont il peut faire ses enquêtes. Quelqu'un peut venir cagouler, ou si on peut aller au niveau des conflits armés, il y a des gens qui viennent, des rebelles ou des agresseurs, mais l'OPJ doit savoir utiliser tous ses sens. Et c'est à partir des questions que l'OPJ va poser, qu'il pourra identifier qui est le monsieur ou c'est quelle équipe qui a pu commettre ces bavures. Supposons nous sommes au niveau d'une zone à conflit armé et une dame où une famille se voit infiltrée et il y a eu des bavures sur les violences sexuelles. L'OPJ peut poser autant de questions pour savoir comment étaient vêtues ces personnes-là, quelle langue ils parlaient, est-ce que parmi toutes ces personnes-là, il y avait quelqu'un chez qui on donnait toutes ces révérences. Et à partir de tout ça, on pourrait cibler si c'était quelle équipe ou quelle unité qui a eu à commettre ces bavures.
Alors pour les femmes violées qui sont dans les zones occupées par l'M23 et l'AFC, où aller dénoncer? Comment dénoncer?
D'habitude, il y a des équipes qui se transportent sur les lieux, par exemple dans des cas de déplacés, pour parler avec toute cette population déplacée. Et c'est à partir de ces entretiens-là que les gens peuvent dénoncer et savoir comment on peut continuer avec les enquêtes.
Bien. Il y a aussi une autre question, Sergent Fournel. Quels sont les mécanismes pour détecter les dénonciations mensongères?
Oui, ça, je vais laisser ma collègue.
Ndaya, Major Ndaya.
Oui.
Parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent faire des déclarations qui sont fausses, peut-être pour avoir un intérêt ou bénéficier d'un avantage quelconque.
Oui, effectivement. Parce que, pas seulement pour les infractions des violences sexuelles, même d'autres infractions. Parce que, il y a par exemple de ce qu'on peut appeler pendaison bleue. Ou bien lors de noyades. Mmh. Il peut y avoir un vrai noyade et un faux noyade. Alors, c'est l'OPJ, comme je l'ai dit. Si il a bien emmagasiné tout ce qu'on lui a donné comme formation, il sera détecté à travers les questionnaires. Mmh. Puisque si on parle, par exemple, du noyade, nous savons que quelle est la position d'une femme qui se noie. Quelle est sa position? En tant que OPJ, on doit connaître. Et lorsque vous trouvez cette femme dont on parle qu'elle s'est noyée, mais dans une position autre, donc déjà, vous saurez détecter que là, il y a eu problème. Autre chose et on est allé juste la déposer.
D'accord.
C'est à travers le questionnaire.
Les questionnaires qu'on arrivait à détecter les mensonges. Sergent Fournel, il y a cette question par rapport à la honte. Une femme qui est victime de violences sexuelles, elle a honte, elle veut pas en parler, c'est une honte pour elle, peut-être pour sa famille aussi, alors elle préfère garder silence pour éviter tout ce qu'il y aura, il peut y avoir comme discrimination dans la communauté, etc. Par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Oui, moi j'encourage les femmes, nous encourageons les femmes à dénoncer les actes de violence, d'aller vers la PNC pour raconter ce qu'elles ont vécu. Et j'encourage aussi à aller vers les centres hospitaliers. Elles ont le droit d'être crues, elles ont le droit d'être entendues et de recevoir des soins. Oui.
D'accord. Majandaya, la réparation. Quelqu'un est revenu sur la réparation. Comment ces femmes seront réparées après les préjudices subis?
Ok. Lorsque nous parlons des victimes de violences sexuelles, on leur a toujours accordé une prise en charge holistique. Et dans cette prise en charge holistique, cela doit arriver jusqu'à la réparation au niveau du tribunal. Alors, pour l'instant là, je sais que le gouvernement a eu à créer le Fonds national de réparation des victimes. Je pense que c'est un fonds qui est mis à la disposition des victimes de violences sexuelles afin qu'ils puissent être remis dans leurs droits.
Vous parlez du fonds à rêve.
Oui, fonds à rêve. Alors, je pense, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut approcher ceux qui sont en train de travailler dans cette structure. Mais une fois ce fonds national de réparation des victimes, c'est plus pour les victimes de violences sexuelles dans les zones de conflits armés. Donc, il faudrait que les enquêtes puissent se faire.
Et que c'est vous pour soyez une certaine période bien déterminée.
Oui, oui. Vous soyez listé afin que vous puissiez quand même profiter de cette réparation-là. Mais sinon, déjà à partir de la chaîne pénale, lorsque le tribunal constate qu'effectivement, il y a eu cas de violence sexuelle, en tout cas, vous êtes obligé que vous puissiez avoir gain de cause et avoir vos dommages et intérêts sur ça.
Bien, un auditeur nous pose la question de savoir, la dénonciation des cas de violences sexuelles est-elle payante ou gratuite, Majandaya?
La plainte est gratuite. Pour ceux qui sont bien formés comme nous là, dans notre structure, la plainte est gratuite. Mais, il y a une petite incompréhension.
Laquelle?
Vous venez, vous déposez votre plainte gratuitement. Maintenant, en ce qui concerne la procédure à suivre, c'est là où les bas blessent. puisque nous ne sommes pas accompagnés dans cette procédure.
L'OPJ ne va pas exiger un peu d'argent, tout ça, pour le papier, le stylo et le reste.
C'est pourquoi je disais que le papier, le stylo, ça n'a pas de problème. Puisqu'avec un 500 francs, on peut se taper deux papiers, un stylo, et on peut toujours acter la plainte. Mais c'est la procédure dont je suis en train de parler. Puisque après avoir reçu la plainte, il faut maintenant enquêter jusqu'à mettre la main sur le bourreau. Mais comment?
Il faut des moyens.
Lorsque nous ne sommes pas accompagnés, c'est en ce moment-là que nous nous référons encore sur le plaignant afin qu'il puisse donner des moyens afin que nous puissions continuer la procédure. Et sur ça, c'est aussi un son que nous sommes en train de donner afin que l'on puisse nous accompagner
financièrement, parlant, qu'on puisse vous doter des moyens
logistiquement afin que tout soit gratuit comme le demande la procédure.
Bien, une autre question de savoir, est-ce qu'on peut dénoncer un agent de l'ordre auteur d'un cas de viol?
Personne n'est au-dessus de la loi. Et lorsqu'on est agent de l'ordre, cet agent est censé connaître les lois de la République. C'est pour dire que lorsque un agent de l'ordre commet une violence sexuelle, cela constitue une circonstance aggravante. Parce qu'il est censé connaître la loi et protéger cette loi-là. Donc, l'agent de l'ordre n'est pas exempté.
Bien. Sergent Fournel, vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Non, ça, j'ai un agent.
C'est bon. Très d'accord. Une autre question est de savoir qui est censé dénoncer un cas de violence sexuelle et où est-ce qu'on peut porter cette accusation s'il s'agit d'un agent de l'ordre?
Tout le monde peut dénoncer. La victime ou l'entourage peut dénoncer. Et quand il s'agit d'un agent de l'ordre, qu'il soit policier, qu'il soit militaire, on peut toujours le dénoncer à la police. Et la police aura à le déférer devant son juge naturel qui est l'auditorat militaire. Et c'est là qu'il sera poursuivi pour être condamné.
On ne va pas directement à l'auditoire.
C'est pourquoi j'ai dit, lorsque on a parlé de où dénoncer, j'avais parlé de la chaîne pénale.
Oui.
Et dans la chaîne pénale, quand on parle du parquet, il y a le parquet civil et le parquet militaire. Donc l'auditoire est dans cette chaîne pénale.
D'accord. Maître Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, apparemment, je comprends pas. Est-ce que cette structure-là se limite seulement à documenter les cas ou ils arrivent aussi à traduire ces gens-là? Parce que lorsqu'on documente, je suppose qu'il y a des victimes qui sont bien identifiées et peut-être les cas échéants aussi, les criminels. Hein, ils se limitent seulement à documenter ou ils défèrent aussi ces gens-là devant les instances compétentes. Et deuxièmement, combien de cas, parce qu'on nous parle des cas documentés, combien de jugements qui sont déjà rendus, s'ils peuvent aussi documenter sur ces plans-là, durant ces années, combien de jugements qui sont rendus dans le cadre des infractions rentrant dans la définition, disons, de cette thématique et de cette terminologie sur violence sexuelle. S'ils peuvent un peu nous préciser, parce que on ne sait plus comprendre. Ou carrément, si on ne sait pas identifier les criminels, c'est que cette documentation-là peut aussi être fausse. J'imagine, hein. Et puis, deuxièmement, nos musiciens ici, hein, moi j'entends des propos là, hein, il y a des propos vraiment obscènes qui véhiculent, là, surtout à l'initiative ici, les images obscènes qui véhiculent. Pourquoi ces gens-là ne sont pas inquiétés? Est-ce que dans le cas des documentations qui font allusion, est-ce que ces gens-là aussi sont dedans? Ça vous mentir, moi je doute vraiment de cette statistique qui sont en train de faire allusion là. Et puis, bien. Je ne serais pas vraiment content de s'alimenter, d'entendre à chaque fois qu'on a gelé autant déjà et on ne voit pas les sanctions suivre, quoi.
Bien, merci. Major d'ailleurs, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur? Est-ce qu'il y a eu des cas, vous dites qu'il y a des cas documentés de violences sexuelles, mais est-ce qu'on a traduit les bourreaux à justice? Qu'est-ce qu'il y a, combien de jugements ont été prononcés, tout ça? Il veut savoir.
La police nationale congolaise n'est qu'une... La police nationale congolaise travaille dans la procédure pré-juridictionnelle. Donc nous sommes là juste, donc je pourrais dire, c'est la porte d'entrée. Mais parler des cas ou des personnes qui ont été condamnées, là c'est au niveau du tribunal. Et du fait que il n'y a pas de feedback que le tribunal nous rapporte, c'est difficile que, en tant que policier, que je sache que sur un nombre de X dossiers déférés, il y a eu Y condamnation, puisque le tribunal ne nous fait pas rapport en ce qui concerne la finalité des dossiers. Nous nous faisons notre part, le parquet fait sa part et le tribunal de même.
Bien, on est arrivé presque à la fin de cette émission sur les violences sexuelles. Voilà, au début, on a dit qu'il y avait beaucoup de cas de violences sexuelles documentées et en nous parlant des actions menées par l'unité de la police des Nations Unies en collaboration avec la police nationale congolaise dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, pour terminer, un message à lancer à la population congolaise par rapport à cette question, Sergent Fournel.
Oui, je voudrais tout d'abord remercier les auditeurs. Nous avons eu des questions très pertinentes et on voit que c'est un sujet qui attire beaucoup l'attention, si je peux m'exprimer ainsi. Comme mot de la fin, eh bien, j'encourage les victimes à dénoncer. Elles ont le droit d'être entendues. Et que ce soit par la voie de la PNC ou de se rendre dans des centres hospitaliers comme la clinique Panzi, l'hôpital Saint-Joseph, qui couvre les soins médicaux, psychosociaux, juridiques et au niveau de la réinsertion.
Bien, merci Sergent Fournel de l'UNPOL. Je vais donner la parole au Major Ndaya.
Oui, comme dernier mot, je dirais que les violences sexuelles existent. Et les violences sexuelles se commettent partout. Les violences sexuelles engendrent des conséquences sociales, physiques, psychologiques, qui peuvent entraîner même la mort. Alors, l'arrangement à l'amiable ne résout pas cette problématique. Puisque nous allons rester dans cette impunité que nous sommes en train de décrier tous.
D'où il faut dénoncer.
D'où dénonçons. Je demande au papa, aux mamans, à tout un chacun de dénoncer tout cas de violence sexuelle afin que nous puissions combattre ce fléau.
Même les voisins qui sont au courant d'un
même
cas de violence.
Même dans la famille, puisque les violences sexuelles, c'est partout. C'est même partout. Dans la famille.
D'accord. Bien, Major Marceline Daya, commandant adjoint de toutes les équipes provinciales d'enquête et de prévention de la violence à la police nationale congolaise, nous vous disons merci d'avoir merci répondu beaucoup à notre invitation. Et nous disons aussi merci au sergent enquêteur Christine Fournel de l'UNPOL. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Debs Vita était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Paul Badanyama, la retransmission live sur les plateformes digitales des radios Okapi. Jeudi, Daniel Kachama au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence et la paix. Et à la prochaine.